Nous allons entendre maintenant les lectures qui nous permettront d'entrer dans la prédication ce matin. Donc les premiers textes se trouveront dans le livre de Daniel et nous commencerons au premier chapitre.
Alors Daniel chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 20. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Hanania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma vie, ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria: « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Et une seconde lecture également dans le livre de Daniel, au chapitre 6, verset 1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi: « Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressa des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, Il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du jour, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amenât Daniel et qu'on le jetât dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Une troisième lecture, dans le livre de l'Épître de Paul aux Romains, Romains 11, le verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Une seconde lecture dans le livre des Romains, au chapitre 12, un petit peu plus loin, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et une dernière lecture, Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
C'est donc en comptant sur l'œuvre du Saint-Esprit qui est Dieu et qui agit puissamment que nous allons ce matin chercher à progresser dans notre manière de rendre gloire à Dieu. C'est l'été, le temps des cours du CIFOGE, des camps d'enfants croix et bouge, et j'ai le privilège chaque année de reprendre l'enseignement de l'artisan de paix. Et cela me fait du bien, me permet de revenir sur des choses, me reprend aussi parfois, et me stimule à vivre en étant réconcilié. J'ai donc pensé que ça serait sûrement aussi utile pour l'Église, en fait, de revenir sur ces sujets. Et donc j'ai prévu cette année de faire 2 prédications en lien avec le sujet de l'artisan de paix, particulièrement un principe. Nous allons revoir le tout pour nous remettre dans le contexte, et ensuite nous allons voir des outils pour vivre un principe donc de l'artisan de paix. Donc on va faire un petit rafraîchissement de tout cela dans un premier introduction, et ensuite nous allons nous arrêter sur 2 outils pour vivre cet premier aspect de rendre gloire à Dieu. Nous allons voir le premier outil, qu'il faut rester sur le plateau de la colline pour rendre gloire à Dieu. Et deuxièmement, deuxième outil, que nous rendrons gloire à Dieu en faisant des choix qui le glorifient. Alors, nous verrons ces deux outils, nous verrons deux autres outils dans deux semaines, qui sera le triangle et la 3D, qui nous aideront aussi encore à rendre gloire à Dieu. Alors commençons maintenant par le rappel des principes de l'artisan de paix, ou la découverte peut-être pour plusieurs d'entre vous, de ces principes de l'artisan de paix. Donc c'est notre premier point, la main de l'artisan de paix. La main de l'artisan de paix est formée en fait d'un poignet. Le poignet qui relie la main au corps, okay, et qui donne la capacité d'agir à cette main. Ce poignet est aussi le principe de base de tout ce que nous allons vivre dans des relations selon Dieu. Si la main n'est pas reliée au corps, elle est inutile. De même, si nous vivons les relations les uns avec les autres, avec même différents outils que la parole de Dieu nous donne, sans être reliée à ce corps, elle est inutile. Ce poignet est intitulé rédemption. Rédemption. Et comme vous le verrez, tous ces principes commencent par un R pour mieux les mémoriser. La rédemption, que j'appelle aussi l'évangile de Jésus-Christ, est le fondement sur lequel reposent toutes nos actions et nos réactions selon Dieu dans les relations. La rédemption, c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui nous délivre de l'esclavage du péché et qui nous fait entrer dans son royaume où nous sommes appelés à vivre comme Dieu le demande, en nous appuyant sur les richesses de sa grâce. Alors je vais donc agir en me basant sur son action, sur sa manière de voir les choses, sur ses standards, sur ce qu'il me demande, en m'appuyant sur ce qu'il me promet et ce qu'il me donne. Tout ça. Bon, je vais le redire, cette phrase, elle est longue, hein? Elle est d'ailleurs dans vos petites feuilles si vous voulez le compléter. Je vais agir en me basant sur son action, sur sa manière de voir les choses, sur ses standards, sur ce qu'il me demande, en m'appuyant sur ce qu'il me promet et ce qu'il me donne. Si nous agissons sans nous baser sur l'évangile de Jésus-Christ, c'est comme si nous voulions utiliser une main qui n'est pas rattachée à un corps. Elle n'a aucune force. Aucun mouvement n'est possible. Et cette œuvre de rédemption, eh bien, est basée sur un passage clé qui est 2 Corinthiens 5, 17 à 20, que je vais vous lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est déjà des premières questions qui nous arrivent. Es-tu réconcilié avec Dieu? Es-tu en Christ? Es-tu une nouvelle création? La repentance et la foi, nous en avons parlé ce matin déjà, nous mènent sur ce chemin. C'est donc basé sur la réconciliation opérée par Dieu lui-même que nous allons vivre toutes nos relations. Nous allons vivre deux habitudes à chaque instant de notre vie, et trois étapes que nous vivrons lorsqu'il y a un conflit ou une situation à régler, une relation à retrouver. Ce sont les cinq doigts de la main de l'artisan de paix. Le premier et le dernier, c'est des habitudes que nous vivons habituellement. Et les trois autres sont des étapes lorsqu'il y a un conflit, quelque chose à régler. Alors la première habitude, c'est la conséquence de la compréhension de l'œuvre de la création et de la rédemption de Dieu. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Pour quelle raison? Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Eh bien, je ne vais pas maintenant développer, vous pouvez réécouter les prédications sur ce sujet-là, mais c'est pour sa gloire. Pour sa gloire. Il est dit dans Romains 11, 36, qu'on a lu tout à l'heure, « Tout est de lui, par lui et pour lui, à lui soit la gloire dans tous les siècles. » Et ce Créateur non seulement nous a créés pour sa gloire, mais si nous sommes chrétiens nés de nouveau, il nous a rachetés. Nous bénéficions de son œuvre de rédemption. Nous avons reçu l'Évangile et toutes ses richesses. Si je vous demandais quelles sont les richesses de l'Évangile, que diriez-vous? Je vais vous en suggérer quelques-unes de ces richesses. Une espérance solide. La libération de l'esclavage du péché. L'adoption par un Père parfait. Un héritage éternel. La restauration. La paix. La joie du salut. Une famille. Un accès à la vérité. Le don du Saint-Esprit qui vit en nous. Et bien plus encore. Et tout cela nous pousse à vivre pour la gloire de celui qui accomplit ce salut, pour notre Rédempteur. Et ce premier R, qui est de rendre gloire à Dieu, cette habitude, est basée sur le texte de 1 Corinthiens 10, 31, que plusieurs connaissent maintenant par cœur. Je vous invite à les avoir par cœur. Ils sont dans votre cœur et ils ressurgissent quand on en a besoin. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, hein. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. En cherchant donc à chaque instant de nos vies, et donc aussi pendant les moments de joie, pendant les moments d'épreuve, pendant les moments de complicité, pendant les conflits, de plaire à Dieu. Certains se souviennent peut-être, s'ils l'ont entendu, de iPad. Je donne juste la traduction. Hein. iPad, c'est « je », puis P-A-D, « je plais à Dieu ». Et vivant donc ce premier R qui est de rendre gloire à Dieu, nous nous rendons vite compte que nous vivons encore dans un monde déchu et que le péché est encore là. Et même s'il n'a plus la puissance de me condamner, il est encore bien présent et affecte tout particulièrement mes relations. Voici donc les étapes préconisées par la Bible pour gérer les conflits. Si on a cette main de l'artisan de paix, c'est juste une manière de s'en souvenir. Mais c'est ça, c'est des éléments bibliques. Donc le premier R, rendre gloire à Dieu, c'est une habitude que nous avons à tout moment. Ensuite, le deuxième R, qui est la première étape lorsqu'il y a conflit, est de retirer la poutre. Retirer la poutre. Une action que nous basons de nouveau sur l'Évangile. Vous vous souvenez, la main, elle est liée à un corps. Hein? Et nous la basons sur l'Évangile, l'œuvre de rédemption. Lorsque nous réalisons que Dieu fait miséricorde à ceux qui confessent leurs péchés, notre propre justice est balayée et nous admettons et nous nous repentons de nos fautes pour bénéficier de l'Évangile. Celui qui connaît l'Évangile va se repentir de ses fautes lorsqu'il les voit, parce qu'il sait qu'il sera pardonné lorsqu'il va auprès de Dieu. C'est pour ça que baigné par l'attitude de rendre gloire à Dieu, nous vivons cette première étape lors de conflits, basé sur Matthieu 7, 5. Matthieu 7, 5, ça vous dit peut-être aussi quelque chose. Ça commence par « hypocrite ». Ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. À chaque fois que je me repens et que je saisis l'œuvre de Christ, je suis pardonné. Je suis pardonné. Et c'est cette assurance qui me pousse à confesser mes péchés à Dieu et aux autres, à ceux que j'ai lésés. Vous vous souvenez peut-être des 7 A de la repentance ou de la confession qui libère. Aller vers toutes les personnes concernées, abandonner les cimes peut-être, avouer les choses précisément, admettre qu'on a blessé l'autre, accepter les conséquences, améliorer son comportement et donc appeler au pardon. La première étape dans un conflit. Le deuxième R, retirer la poutre. Mais dans un conflit, généralement, l'autre a aussi péché. Donc, en ayant premièrement enlevé ma poutre, et l'ordre n'est pas à inverser, c'est important, je vais aussi reprendre l'autre personne. C'est le troisième R, la deuxième étape dans un conflit. Redresser avec douceur. Redresser avec douceur. Je vais donc agir avec l'autre personne comme Dieu agit envers moi lorsque je pêche, avec justice et miséricorde selon l'œuvre de sa rédemption. Hein, quand nous acceptons que nous bénéficions de la manière dont l'Évangile nous montre et sanctionne notre péché, nous serons incités à corriger et restaurer dans la douceur ceux qui ont mal agi en désirant qu'il bénéficie aussi de l'évangile de Jésus-Christ. Voilà comment je vais redresser. Je désire qu'il bénéficie aussi de l'évangile de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous vivons cette deuxième étape, redressée avec douceur, basée sur Galates 6.1. Galates 6.1, troisième passage à avoir dans notre cœur. Hein? Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec douceur. Prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Voilà donc ce texte qui est à la base en fait de cette œuvre. Hein, lorsque je vois quelqu'un qui pêche, je désire qu'il puisse également bénéficier de l'œuvre de Jésus-Christ. Je m'approche donc non pas en ayant une attitude de vengeance avec le bâton, mais avec une attitude de réconciliation avec le pardon. Au lieu de m'approcher avec la loi pour l'écraser, je vais apprendre à utiliser la loi pour apporter l'évangile libérateur. Et cette étape de redresser avec douceur est vécue en ayant déjà avec nous ce qui pourra permettre de reconstruire. C'est la troisième étape en fait, mais qu'on a déjà avec nous. Hein? Et cette troisième étape, qui est le quatrième R, est reconstruire par le pardon. Reconstruire par le pardon, à nouveau basé sur l'œuvre de rédemption. Lorsque nous sommes conscients de la manière dont Dieu nous pardonne, comment est-ce que Dieu nous pardonne? Eh bien, notre cœur est rempli de reconnaissance envers celui qui pourvoit au pardon et à la reconstruction que nous avons reçu et que nous donnons par la foi. Heureux d'être libéré du poids du non-pardon et joyeux d'apporter la délivrance d'une dette à notre offenseur. Voilà pourquoi nous allons vivre cette troisième étape, hein, le quatrième R, reconstruire par le pardon, basé sur Éphésiens 4, 32, où il est dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » Faire grâce veut dire pardonner. Donc avant de retenir mon pardon, lorsque quelqu'un vient me le demander, il est bon et utile de me rappeler combien Dieu m'a pardonné. Et vous savez comment il pardonne? Le péché pardonné n'est plus dans sa tête. Le péché pardonné n'est plus placé en présence de l'offenseur. Le péché pardonné n'est pas montré aux autres. Et le péché pardonné ne vient pas ternir la relation. Le pardon, c'est la porte d'entrée sur le chemin de la restauration des relations. Et ma façon de pardonner manifestera ma compréhension du pardon de Dieu. Et que les autres veuillent ou pas la réconciliation, que les autres le veuillent ou pas, je vais vivre la deuxième habitude de l'artisan de paix, qui est le cinquième R, qui est liée à cette première habitude de rendre gloire à Dieu, qui est enracinée dans la rédemption, dans l'évangile de Jésus-Christ, qui est de rechercher la réconciliation en tout temps et avec tout le monde. Rechercher la réconciliation. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir en laissant Dieu agir pour ce qui n'est pas de notre responsabilité. En réfléchissant à l'œuvre de l'évangile, la rédemption, nous voyons la persévérance de Dieu et son action bienveillante, sans aucune mauvaise action à notre égard. C'est notre exemple. Tant qu'il y a de la vie, nous chercherons à appliquer l'évangile dans toutes nos relations. Car nous croyons qu'à Dieu, rien n'est impossible. Nous croyons qu'à Dieu, rien n'est impossible. Et nous sommes appelés à rester fidèles dans notre attitude à rechercher la réconciliation. Et là, dans cette recherche de réconciliation, notre but premier, c'est d'être fidèle. Ce n'est pas le résultat, parce qu'on ne le maîtrise pas, c'est d'être fidèle. C'est pourquoi nous voulons vivre la deuxième habitude, qui est donc le cinquième R, rechercher la réconciliation qui entoure donc ces étapes quand le conflit est là, basé sur Romains 12, 21. Romains 12, 21 est extrêmement fort. Il dit « Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Voilà ce qui nous soutient, même si l'autre ne veut pas être réconcilié. Ainsi, nous venons de revoir ensemble la main de l'artisan de paix, qui est une personne que l'on pourrait décrire ainsi. L'artisan de paix est rempli de la sagesse d'en haut, qui est pure, pacifique, modérée, conciliante, juste, pleine de miséricorde, pleine de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Il montre, par sa bonne conduite, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Et cet artisan de paix se base et se nourrit et va à la source qu'est l'évangile de Jésus-Christ. Ça va? Waouh, c'est beaucoup d'un coup, c'est vrai, mais c'est un peu un résumé, hein? Donc ceux qui veulent reprendre cela, vous pouvez reprendre, il y a 6 prédications qui expliquent tout ce que je viens de dire maintenant. Mais nous avons dit que la première habitude de l'artisan de paix, c'est de glorifier Dieu. Et nous allons voir, comme je vous l'ai promis, 2 outils qui nous aideront à vivre cette habitude de glorifier Dieu. Le premier outil, c'est la colline, et le deuxième, c'est la roue. Bon. Alors, le prophète Daniel, dont nous avons lu 2 récits tout à l'heure, nous accompagnera dans ce périple et nous aidera par son exemple à comprendre ce que veut dire glorifier Dieu. Alors, commençons ce deuxième point annoncé, rendre gloire à Dieu en restant sur le plateau. Alors, c'est le récit où Daniel aurait dû manger les mets du roi, qui est notre modèle. Ça va, vous vous souvenez? On a lu tout à l'heure, hein, Daniel 1. Et j'y reviendrai constamment pour expliquer cet outil que j'appelle la colline des conflits qui s'aplanit lorsque nous restons sur le plateau. La colline des conflits qui s'aplanit lorsque nous restons sur le plateau. Et vous comprendrez que le plateau, c'est là où nous glorifions Dieu. Alors, vous avez besoin d'un peu d'imagination pour cette illustration. Lorsque vous entrez dans un conflit, que les circonstances ne sont pas comme prévu, que vous êtes en désaccord, vous allez en fait sur une colline. Cette colline a 3 parties. Elle a un plateau et 2 pentes. Ça va? C'est pas trop dur. Un plateau, 2 pentes. Et chaque pente du plateau est glissante, en plus. Attention, c'est glissant. Il y a plusieurs étapes. Donc on a le plateau, 2 pentes, ça fait donc 3 parties qu'on va étudier en lien avec Daniel, qui nous aidera comment vivre à la gloire de Dieu. Le plateau, c'est comment rendre gloire à Dieu, et les 2 pentes, je pense que vous doutez, c'est l'endroit où nous ne glorifions pas à Dieu. Et ça glisse. Nous allons donc apprendre à les connaître pour les éviter. La première pente que nous allons observer ensemble est la pente appelée la pente de l'évasion. La pente de l'évasion. Alors, sur la pente de l'évasion, la personne face à un conflit, je fais juste une petite parenthèse, quand je dis conflit, ça peut être simplement quelque chose qui est imprévu, un désaccord ou un problème à régler. Hein? Mais j'utilise toujours le terme conflit. Alors, sur la pente de l'évasion, la personne face à un conflit ou une situation à régler simule la paix. Elle simule la paix, mais ne règle rien du tout. Elle cache. Elle veut que personne ne sache. Et espère que le problème se dissoudra tout seul. Voilà. Ça, c'est la pente de l'évasion. Je le relis. Sur la pente de l'évasion, la personne face à un conflit ou à une situation à régler simule la paix. Mais ne règle rien du tout. Elle cache. Elle veut que personne ne sache et espère que le problème se dissoudra tout seul. Je vous dis tout de suite, nous ne glorifions pas Dieu sur cette pente. Et cette pente a plusieurs paliers. Et je vais vous en parler de 4 paliers. Le premier palier, c'est le déni. En fait, la personne fait semblant que le conflit n'existe pas, qu'il n'y a rien à régler. C'est chercher à se mettre hors de cause. Eh bien, Daniel aurait pu faire semblant de ne pas entendre l'ordre du roi. Ou bien chercher à mettre la nourriture dans une poubelle et se débrouiller pour aller chercher des légumes lui-même. Hein? Mais il n'aurait rien réglé. Cela aurait été découvert, il aurait été bien embêté, et Dieu n'aurait pas été glorifié. Un deuxième palier après le déni, c'est le blâme. Le blâme. Alors, la personne, en fait, se décharge de sa responsabilité en chargeant les autres. Il n'y peut rien. C'est la faute des autres. C'est mettre le projecteur sur l'autre pour se faire oublier. Daniel aurait pu blâmer son peuple de s'être détourné de l'Éternel. Ce peuple qui est plus pécheur que lui. Hein, lui, quelque part, s'il mangeait ça, c'était rien par rapport au peuple qui avait péché, qui avait provoqué cette déportation. Mais sa conscience aurait été chargée. Rien n'aurait été réglé. Et Dieu n'aurait pas été glorifié. Le déni, le blâme. Et le troisième palier, la fuite. La personne fuit, ne veut plus rien entendre. Elle fait l'autruche ou la carpe. Elle ne veut pas prendre de responsabilité dans la résolution du conflit. La fuite. Change de trottoir. Daniel aurait pu chercher à fuir, à se cacher, à retourner à Jérusalem à pied. Mais les Chaldéens l'auraient sûrement cherché, l'auraient rattrapé. Et sa situation ne se serait pas arrangée. Et Dieu n'aurait pas été glorifié. Le quatrième palier. Alors là, c'est violent ici, c'est vrai, mais ça n'a pas allé jusque-là, c'est le suicide. La personne, afin de ne plus avoir à faire face au conflit, se supprime. Elle pense qu'ainsi, cela arrangera les autres et qu'elle sera délivrée de ce qu'elle ne peut pas régler. Vous savez, le suicide n'est pas forcément physique, mais certaines personnes vivent en se disant qu'elles n'ont pas le droit de vivre ou qu'elles n'ont pas le droit de faire certaines choses. Elles se coupent de la vie. Daniel aurait pu se prendre la vie pour ne pas manger les mets du roi. Mais cela n'aurait pas du tout rendu gloire à Dieu, qui tient la vie humaine pour sacrée et qui veut que personne ne la touche. Je crois que vous comprenez gentiment quand je vous dis éviter la pente de l'évasion. Éviter cette pente glissante de l'évasion. Et si vous êtes sur cette pente, il y a une manière de revenir sur le plateau. C'est la repentance et la foi. Mais attention, en revenant, ne basculez pas de l'autre côté, parce que c'est pas mieux. La pente de l'attaque, c'est la deuxième pente. Donc on apprend à connaître ça pour qu'on l'évite. Là, on ne glorifie pas Dieu, la pente de l'attaque. Alors sur la pente de l'attaque, la personne cherche à imposer la paix. Avant, on l'a simulé ici, il impose. Donc sur la pente de l'attaque, la personne cherche à imposer la paix. Elle est prête à briser la paix avec les autres pour exiger la sienne. Le but est de gagner, d'écraser l'autre, d'avoir raison, et tout le monde doit le savoir. Donc sur la pente de l'attaque, la personne cherche à imposer la paix, elle est prête à briser la paix avec les autres pour exiger la sienne, le but est de gagner, d'écraser l'autre, d'avoir raison, et tout le monde doit le savoir. Alors de nouveau, il y a des paliers, hein, ça glisse. Et c'est par palier. Ça commence, premier palier, c'est la dépréciation. La personne rabaisse l'autre, la regarde de haut, et ainsi l'incite à s'écraser. Cela peut aussi se faire d'ailleurs par le dénigrement et la calomnie derrière le dos de l'autre. C'est une façon de se mettre au-dessus de l'autre. Ça glisse, hein. Daniel aurait pu déprécier le chef des eunuques en le rabaissant, en se moquant de son activité servile. Il ne fait qu'obéir au roi et en ne le prenant pas au sérieux. Mais cela n'aurait suscité qu'une réaction hostile et Dieu n'aurait pas été glorifié. Le deuxième palier de la pente de l'attaque, c'est la menace. La personne n'obtenant pas raison ou la victoire devient plus directe et indique qu'elle va agir contre l'autre s'il ne fait pas ce qu'il veut. La menace après la dépréciation. Daniel aurait pu dire au chef des eunuques qu'il allait faire la grève de la faim et qu'il allait lui rendre la vie difficile s'il lui donnait les mets du roi. Mais cela n'aurait pas arrangé les choses. Il aurait été forcé d'ailleurs à manger et Dieu n'aurait pas été glorifié. Dépréciation, menace. Et le troisième palier, c'est l'agression. La personne n'obtient pas ce qu'elle veut par la menace, elle passe à l'attaque en utilisant la force physique pour arriver à ses fins. Je t'écarte physiquement pour avoir la paix. Daniel aurait pu lancer la nourriture par la fenêtre et le nuque avec. Mais les gardes auraient intervenu, l'auraient soit directement tué ou mis en prison. Et Dieu n'aurait pas été glorifié. Et le quatrième palier, aussi terrible que le dernier du côté de l'évasion, c'est le meurtre. La personne pense que la meilleure manière de régler le conflit est d'écarter l'autre. Et comme Jésus l'a enseigné, vous le savez, le meurtre peut déjà être commis dans son cœur. Daniel aurait pu tuer le chef des eunuques, mais cela n'aurait pas changé le fait qu'il fallait régler cette situation, et Dieu n'aurait pas été glorifié. Et cette pente d'attaque est tout aussi terrible que la pente de l'évasion, et bien souvent nous passons d'une pente à l'autre très rapidement. Mais ces pentes glissent, et ne vont jamais régler la situation. Et si ils n'arrivent pas jusqu'à l'extrême de la mort physique, c'est la mort relationnelle que ces pentes atteignent. Mais il y a une troisième façon de vivre, c'est de rester sur le plateau. De rester sur le plateau. Alors sur le plateau de la réconciliation, la personne cherche la paix, et cherche la paix commune. Sur le plateau de la réconciliation, la personne cherche la paix commune en désirant le bien de chacune des personnes impliquées et voulant plaire à Dieu. Le problème résolu, ensemble, aplanit la colline. Donc sur le plateau de la réconciliation, la personne cherche la paix commune en désirant le bien de chacune des personnes impliquées et voulant plaire à Dieu. Le problème résolu, ensemble, aplanit donc la colline. Et ce plateau est composé de trois parties. Il y a trois endroits où on peut aller se placer sur ce plateau. Le premier s'appelle « passer par-dessus les offenses mineures ». Donc là, la personne cherche à vivre simplement le Proverbe 19:11 qui dit « L'homme qui a du discernement est lent à la colère ». L'homme qui a du discernement est lent à la colère et il met son honneur à passer sur une offense. Comme Dieu qui ne nous reprend pas pour toutes nos petites erreurs. T'imagines si Dieu nous reprenait pour toutes nos petites erreurs? S'il l'avait fait avec ses disciples, il aurait fait que ça. S'il le faisait avec nous, il ferait que ça aussi. Donc, comme Dieu qui ne nous reprend pas pour toutes nos petites erreurs, nous n'allons pas non plus reprendre nos prochains pour toutes ces petites erreurs. Vous savez, Daniel n'a pas cherché à trouver chez le chef des eunuques ce qu'il faisait de faux. Il ne l'a pas accusé de ne pas tenir en compte leurs différences culturelles et religieuses. Non, il est passé par-dessus cela. Daniel a ainsi glorifié Dieu. Deuxième endroit où nous pouvons nous placer sur ce plateau, c'est l'endroit le plus habituel, disons, lorsqu'il y a un conflit et qu'on ne peut pas simplement passer par-dessus, c'est de chercher le dialogue de la réconciliation. Chercher le dialogue de la réconciliation. Les personnes concernées parlent ensemble et cherchent ensemble une solution. Ce n'est plus comme la pente de l'évasion, on ne dit rien à personne, ni la pente de l'attaque, on dit à tout le monde. Non, les personnes concernées parlent ensemble et cherchent ensemble une solution. Et Daniel ici, là j'aimerais prendre du temps, mais je crois qu'on a déjà la bien en tête pour le saisir. Daniel a un exemple fabuleux ici. Si on commence à un tout petit peu voir ce qui s'est passé, c'est très intéressant. Premièrement, il supplie le chef des eunuques de ne pas se souiller. Donc, ainsi, le chef comprend que c'est Daniel qui ne veut pas se souiller. Ce n'est pas le chef qui a fait quelque chose de faux, il lui en veut, etc. Vous voyez, c'est important cette notion. Ensuite, il lui propose une autre solution à tester dans un temps raisonnable et à en rediscuter. Ainsi, le chef peut entrer dans la démarche sans être forcé. Il dit « Ok, on va voir ensemble. » Ça, c'est le dialogue de la réconciliation, mes amis. Et le test ici est concluant et il n'y a plus de conflit. Donc la colline, elle est aplanie. Il y a un troisième endroit sur ce plateau où nous pouvons glorifier Dieu. C'est un endroit où on se rend compte que seul, on n'arrivera pas à trouver une issue. Donc c'est un endroit qu'on appelle « demander de l'aide extérieure ». Parfois, on a besoin de demander de l'aide extérieure. Et elle peut se faire en trois étapes. Il y a trois façons d'aider, de demander de l'aide. La première étape que j'appelle une demande de coaching. C'est-à-dire de demander à quelqu'un de nous aider à préparer le dialogue de réconciliation. Cette personne ne sera pas là lorsqu'il y a dialogue. Mais on a besoin de quelqu'un qui nous aide à préparer cela. Ça, c'est ce que j'appelle le coaching. Ou bien, deuxième façon de demander de l'aide extérieurement, c'est une demande de médiation. C'est-à-dire demander à quelqu'un de participer au dialogue de réconciliation simplement pour aider à la compréhension. Donc cette personne n'intervient pas, ne donne pas son avis, cette personne simplement aide à la compréhension, elle reformule, elle aide à voir que chacun ait bien compris de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il se passe, et aide peut-être aussi à désamorcer tout le côté émotionnel. Donc ça, c'est une deuxième demande. Ou troisième demande, lorsqu'on n'arrive pas à trouver un accord, même si on nous aide à nous comprendre, c'est donc faire une demande d'arbitrage. C'est-à-dire de demander à quelqu'un de participer au dialogue de réconciliation et de prendre des décisions, des mesures à prendre, qui est le meilleur pour les deux parties. Et voilà donc ces trois manières, ces trois parties de comment demander de l'aide à l'extérieur. Et de ces trois manières, nous pouvons le vivre en glorifiant Dieu. Daniel, c'est vrai, n'a pas demandé d'aide externe dans ce cas. Il aurait pu demander à ses amis de le coacher. Comment est-ce que je pourrais... Peut-être qu'il l'a fait, nous ne le savons pas. Il aurait pu demander au chef s'il connaissait un juif qui aurait pu l'aider, qui connaissait un petit peu la situation. Ou bien il aurait même pu demander au gouverneur de la province de Juda de venir arbitrer la situation. Et dans tous ces cas, eh bien, il aurait aussi glorifié Dieu. Nous sommes donc appelés à rester sur ce plateau de la réconciliation pour rendre gloire à Dieu. Souvenez, hein, rendre gloire à Dieu, c'est l'habitude de l'artisan de paix. Et comment nous le faisons? Bien, en passant par-dessus les offenses mineures, en dialoguant pour trouver une solution ou en cherchant de l'aide extérieure s'il le faut. Et voilà comme l'outil de la colline des conflits peut nous aider à glorifier Dieu. Et Daniel, c'est vrai qu'on voit là que ça s'est réglé. Parfois, ça ne se règle pas comme avec Daniel. Et là, nous prenons la deuxième habitude, le cinquième R. Nous continuons à rechercher cette réconciliation et nous continuons à rester fidèles et rendre gloire à Dieu, même quand c'est difficile. Et si quelqu'un se rend compte qu'il est sur une des pentes glissantes, vous rappelez les pentes glissantes? Eh bien, qu'ils se repentent. C'est le seul moyen de remonter et qu'ils reviennent sur le plateau. Voilà, vous comprenez maintenant ce titre, « Rendre gloire à Dieu en restant sur le plateau ». Et que Dieu nous fasse la grâce d'utiliser cet outil dans nos relations pour lui rendre gloire. Nous arrivons à notre dernier point, qui est de rendre gloire à Dieu en faisant des choix qui le glorifient. C'est l'image de la roue. Daniel sera de nouveau notre exemple, mais cette fois-ci, cela ne concernera plus la nourriture à manger, mais à qui il va donner l'adoration, face même à une menace assez rugissante. Donc un décret est promulgué, toute personne qui adresse des prières à qui que ce soit d'autre que le roi sera punie de mort. Alors que va faire Daniel? Quel choix va-t-il faire? Alors pour ce point, je vais me baser sur le verset bien connu de Galates 6:7 que nous avons entendu tout à l'heure. Galates 6:7 où il est dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Vous pouvez imaginer donc une roue en quatre parties. Une roue, et puis vous avez quatre parties dans cette roue. Et il y a à chaque fois deux parties qui se font face. Je l'appelle la roue des choix. Et donc vous avez... une partie où il est écrit « Choix glorifiant Dieu » qui fait face de l'autre côté à « Conséquences glorifiant Dieu ». Il y a une flèche en fait entre deux. Puis si on tourne, eh bien c'est « Choix déshonorant Dieu » et « Conséquences déshonorant Dieu » puisqu'on moissonne ce que l'on sème. Ça va, c'est pas trop difficile. C'est ça l'outil ici. Et vous aurez compris que c'est lorsque la flèche est mise entre « Choix glorifiant Dieu » et « Conséquences glorifiant Dieu » que l'on glorifie Dieu, évidemment. Ça paraît simpliste. Pourtant, c'est une vérité que nous retrouvons dans toute l'Écriture. Je prends un exemple tout au début avec Caïn. Caïn, c'est un exemple frappant. Il voit que Dieu a un regard favorable au sacrifice de son frère. Il est devant un choix. Va-t-il faire un choix qui glorifie Dieu en cherchant la présence de Dieu? Pas en se concentrant sur ce qu'il aimerait et qu'il n'a pas. Non, se concentrant sur Dieu, est-ce qu'il va faire ce choix-là? Ou bien est-ce qu'il va faire un choix qui déshonore Dieu en se détournant de Dieu et en cherchant à recevoir ou à faire justice lui-même? Eh bien malheureusement, Caïn fait le choix de laisser sa jalousie s'exprimer. Caïn fait le choix de laisser sa jalousie s'exprimer. Il ne se concentre pas sur Dieu, mais sur ce que son frère a reçu et pas lui. Il ne se concentre pas sur Dieu, il se concentre sur ce que son frère a reçu et pas lui. Il choisit de se venger, de tuer. Et la conséquence est que la malédiction sera sur lui jusqu'à la fin de ses jours. Des choix qui déshonorent Dieu ont des conséquences qui déshonorent Dieu. Et heureusement, Heureusement, le message de l'Évangile nous permet de comprendre qu'il est possible de se repentir de ces choix qui déshonorent Dieu. Ah, quelle grâce! Heureusement. Heureusement, sinon nous nous serions perdus. Mais il est possible de se repentir de ces choix qui déshonorent Dieu, que Jésus a pris la malédiction sur lui. Pour celui qui se repent et qui cherche ensuite, par amour, à faire des choix qui glorifient Dieu. La Bible nous enseigne que nous récoltons ce que l'on sème. Si l'on fait des choix qui glorifient Dieu, nous allons récolter des conséquences qui glorifient Dieu. L'exemple de Daniel est très parlant. Daniel apprend le décret signé du roi qui dit que « Quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou quelque homme, excepté au roi Darius, sera jeté dans la fosse aux lions. » Voilà la situation. Et Daniel est devant un choix. Que va-t-il faire ? Fera-t-il un choix qui glorifie Dieu ou un choix qui déshonore Dieu ? Et voici ce que Daniel a fait. C'est écrit dans la suite. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa chambre où les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. David choisit de glorifier Dieu en restant fidèle à son adoration quotidienne. Et comprenez bien, il n'agit pas en provocation. Il a simplement continué à agir fidèlement envers Dieu. Ce n'est pas qu'il faisait rien, tout à coup il dit « Ah, maintenant je vais aller adorer Dieu devant la fenêtre ouverte. » Non. Il a simplement continué à glorifier son Dieu en lui restant fidèle. Et Daniel savait qu'il risquait la fosse aux lions. Daniel savait qu'il risquait la fosse aux lions et ne savait pas comment Dieu allait agir. Mais il était certain que Dieu serait honoré par sa manière d'agir. Nous, on connaît la suite. Lui, il ne la connaissait pas. Nous, on est toujours en train de penser à la suite. Non, pensez comme si vous ne connaissiez pas la suite. Daniel savait qu'il restait à la fosse aux lions et il ne savait pas comment Dieu allait agir, mais il était certain que Dieu serait honoré par sa manière d'agir. Ça nous fait penser d'ailleurs à ses amis, vous vous souvenez, quand ils ne se sont pas agenouillés et puis le roi il a dit vous allez être brûlés. Puis il a dit, même si on est brûlé, même si Dieu n'intervient pas, nous lui resterons fidèles. Parce qu'en fait, nous cherchons à l'honorer. Et notre acte, qu'on soit brûlé ou pas, l'honore. Et même si Daniel n'avait pas été délivré de la fosse aux lions, comme ce fut le cas d'ailleurs pour beaucoup de nos frères et sœurs dans la foi dans le Colisée de Rome, son choix glorifiait Dieu et les conséquences glorifiaient Dieu, qui a d'ailleurs accueilli nos frères et sœurs martyrs dans la gloire. Ce deuxième point ici, ce deuxième outil, nous engage à faire des choix, qu'ils soient petits ou grands, dans le but de glorifier Dieu. Puis c'est vrai, moi je dis souvent, c'est comme les conflits, les choix aussi. Les grands choix sont remplis de petits choix. Comme les grands conflits sont remplis de petits conflits. Donc faisons les petits choix à la gloire de Dieu et les grands choix seront vécus à sa gloire également. Comme l'on récolte ce que l'on sème, le choix qui glorifie Dieu aura des conséquences qui glorifient Dieu. Et dans les relations, particulièrement dans le long terme. Nous arrivons à la conclusion de cette prédication qui nous a permis de voir deux outils, la colline des conflits et la roue des choix, qui nous aident à rendre gloire à Dieu. Comment allons-nous mettre cela en pratique? Comment allez-vous chercher à prendre modèle sur Daniel qui nous a accompagnés ce matin dans l'application de ce merveilleux principe, de cette merveilleuse habitude de rendre gloire à Dieu en toutes circonstances? Peut-être te rappelleras-tu qu'il faut passer sur les offenses mineures pour rendre gloire à Dieu lorsque ton petit frère ou ta petite sœur te taquinera. Peut-être te souviendras-tu de l'importance de dialoguer en vue de la réconciliation. Vous savez, la parole, chose qu'on dit, c'est un don de Dieu et que nous pouvons utiliser pour la réconciliation avec notre voisine, par exemple. Peut-être que face à un choix de ta vie, tu réfléchiras aux conséquences en pensant que le choix qui glorifie Dieu aura des conséquences qui glorifient Dieu. Par exemple, dans ton lieu de travail. Peut-être qu'on te demandera un jour si tu es heureux. Voilà, es-tu heureux ? Tu es face à un choix. Vas-tu maintenant répondre d'une manière qui glorifie Dieu ou vas-tu répondre d'une manière qui déshonore Dieu ? C'est des choses toutes simples, vous voyez. Donc si quelqu'un te demande si tu es heureux, tu peux faire le choix de parler de la source de la joie la plus profonde et la plus puissante. L'évangile de Jésus-Christ qui réconcilie avec Dieu et qui donne le service de réconciliation. Ou bien vous pouvez simplement dire, ben oui, je suis heureux. N'hésitons pas à toujours faire le choix de nous appuyer sur ce que Jésus-Christ a fait, sur sa grâce, sur son pardon, sur sa justice, sur sa paix, sur sa bonté, pour agir face à l'autre de manière à plaire à Dieu. Alors pour terminer, je donnerai un petit résumé de l'artisan de paix ici. Soyons des artisans de paix remplis. C'est aussi un R là, hein. Remplis. Soyons des artisans de paix remplis de la sagesse d'en haut, qui est pure, pacifique, modérée, conciliante, juste, pleine de miséricorde, pleine de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Montrons par notre bonne conduite et nos œuvres empreintes de douceur et de sagesse, que l'Évangile change réellement les relations. Que l'Évangile change réellement les relations et ainsi nous rendrons gloire à Dieu. Nous allons prier. Éternel, ton œuvre de salut, ton Évangile accompli en Jésus-Christ qui nous purifie, qui nous donne la vie, qui nous permet de venir vers toi, de te demander pardon et d'être sûr d'être pardonné, qui nous donne un espoir et une espérance face à tous ceux qui autour de nous nous font du mal, que tu es le Dieu de l'impossible, tu peux transformer des situations que nous ne pouvons pas du tout même imaginer. Seigneur, tu es ce Dieu-là, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Tu peux d'ailleurs changer nos vies et nous donner cette joie d'être libérés du péché, libérés de sa tyrannie. Et j'aimerais, Seigneur, te prier que cela puisse rejaillir sur notre vie avec les autres et avec toi, sur nos relations, et que nous cherchions à te rendre gloire. Ô Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons, Seigneur, te rendre gloire parce que tu es notre Créateur, parce que tu es notre Rédempteur. Et nous avons tout pleinement en Christ, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.